Je vous propose de retrouver maintenant la 18e émission Espace Horizon Inaccessible.
Le mois dernier, on a parlé de SpaceX en tant qu'acteur privé du domaine spatial. Est-il seul sur ce créneau ?
Non, la mise en concurrence étant voulue par la NASA, il y a donc un autre prétendant à ce marché, United Launch Alliance. ULA a été créée en 2006 par Boeing et Lockheed Martin. Elle a repris les fusées Atlas de Lockheed Martin et les Delta de Boeing. Elle fabrique et commercialise ses fusées Atlas et Delta essentiellement pour le compte de l'armée américaine. L'Atlas 5 peut placer 18 tonnes en orbite basse et 9 tonnes en GTO, sur une orbite de transfert géostationnaire, ou d'envoyer 8 tonnes vers Mars. ULA prévoit dès 2023 la récupération du propulseur du premier étage, qui après s'être détaché du lanceur, serait attrapé lors de son retour sous parachute par un hélicoptère. ULA estime qu'un élément devrait être réutilisé au moins 10 fois, pour que les opérations de récupération et de remise en état soient rentables. Mais il n'y a pas que les lanceurs et des capsules dans la démarche Next Step de la NASA. La société Axiom Space a reçu un contrat pour fournir un module habitable commercial qui sera rattaché à l'ISS. Voyons maintenant une autre stratégie pour satelliser des engins, les lanceurs aéroportés. Stratolaunch. C'est un énorme avion de 72 mètres de long, 15 mètres de haut, 117 mètres d'envergure. Il pèse 589 tonnes au décollage et est constitué de deux cellules d'avion reliées par une aile et est propulsé par six réacteurs de Boeing 747. Il a été financé par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, et construit par Burt Rutan, qui est aussi constructeur de Spaceship One. Il devrait avoir une charge utile de 250 tonnes. Sa vocation est l'emport de toute une gamme de petits lanceurs qui seront largués en vol à 9 mètres d'altitude avec des capacités de 450 kg jusqu'à 6 tonnes à 400 km d'altitude. Il a effectué le 25 septembre 2017 ses premiers essais moteurs et un essai de vitesse au sol le 1er mars 2018. Mais Paul Allen est décédé le 15 octobre 2018 sans avoir vu le premier vol de son gros bébé qui a eu lieu le 13 avril 2019 depuis la base de Mojave dans le désert californien, pour un vol de 2h30, l'amenant à plus de 5000 mètres à 300 km/h. Les premiers vols opérationnels sont prévus en 2020. Virgin Orbit, société créée par Richard Branson, le PDG de Virgin, elle réutilise un Boeing 747-400 qui est baptisé Cosmic Girl, retiré du service de sa société transport aérien Virgin, pour lancer une fusée Launcher One, bi-étage, capable de mettre en orbite basse, à 500 km d'altitude, une charge de 300 kg. La société de commercialisation de ce lanceur, Vox Space, a décroché son premier contrat militaire en novembre 2017. Le premier vol du couple Cosmic Girl Launcher One a eu lieu le 18 novembre 2018. Le lanceur se décroche de l'aile gauche de l'avion porteur à 11 500 mètres d'altitude, et fait fonctionner l'unique moteur de son premier étage pendant 3 minutes. Puis le second étage propulse pendant 6 minutes la charge embarquée. Virgin Orbit estime pouvoir assurer 2 vols par mois dès 2020 pour un prix allant de 10 à 12 millions de dollars par lancement. Un petit mot sur le budget de cette nouvelle industrie. Le budget total des entreprises du New Space est, en 2019, inférieur à 3 milliards de dollars. Alors qu'il est de 70 milliards de dollars pour les secteurs historiques, celui des agences nationales, dont 60 milliards de dollars pour les seuls USA. La contribution de la France à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est de 1,2 milliard de dollars, ce qui correspond à 36 euros par Français et par an. Celui de l'Allemagne est de 850 millions d'euros. Mais toutes les entreprises privées américaines bénéficient de développements réalisés par la NASA, ou bien bénéficient de contrats étatiques à des prix très avantageux pour les missions qu'elles assurent pour l'État américain.
Toutes ces réalisations passées ou actuelles correspondent-elles à ce que les hommes avaient imaginé au début de la conquête spatiale ?
Bien évidemment, non. L'imagination sans limite des hommes, ou leurs espoirs, s'est très vite confrontée à la réalité et les projets n'ont pas été réalisés dans les délais espérés, voire carrément abandonnés. On peut les retracer sur plusieurs périodes. Le futur, vu dans les années 60. Tout d'abord, vu par les soviétiques. En 1957, au lancement du premier satellite artificiel Spoutnik. Les soviétiques pensaient pouvoir installer en orbite terrestre une station spatiale torique, tournant sur elle-même, pour assurer une gravité à ses dizaines d'occupants, servant de station relais entre la Terre et la Lune. Installer une base permanente sur la Lune, qui aurait été inaugurée en octobre 1967, pour le jubilé, soit le 50e anniversaire, de la révolution d'octobre de 1917, et les 10 ans de Spoutnik. Pour les Russes, l'exploitation des terres du ciel sera notre grande industrie en l'an 2000. En 1961, au moment du premier vol habité de Yuri Gagarin, l'objectif était le poser d'un homme sur la Lune avant les Américains, puis l'envoi d'un homme sur Mars entre 1970 et 1980, dans une fusée propulsée par un moteur atomique. Voyons maintenant comment ce futur était vu par les Américains, à peu près au même moment. Au lancement de John Shepard en 1961, toujours par installation d'un satellite autour de la Lune, opération réalisée en 1966, alunissage de sondes sur la Lune, réalisée aussi en 1966, les sondes surveilleurs, exploration lunaire par des véhicules automatiques, projet Prospector, remplacé par les explorations humaines du programme Apollo. Mes concepts repris pour explorer Mars. Fusée atomique Rover pour aller sur Mars, projet abandonné. En 1967, satellite de communication apportant dans tous les foyers l'information, lu sur des écrans géants occupant des murs entiers avec des images en 3D. Prophétie réalisée. Des enseignements accessibles par tous, partout, réalisés. Cela s'appelle les MOOC, les Massive Open Online Courses, ou formation en ligne ouverte à tous. Comment le voyait-il au retour d'Apollo 11 en 1969 ? Le prochain but des explorations humaines est certainement la planète Mars, pour le vice-président des États-Unis de Lahore, Spiro Agnew. Avec la date du 3 octobre 1983, pour le premier départ de deux engins spatiaux emportant 12 astronautes, propulsés par des moteurs atomiques. Voyage de 9 mois, 3 mois sur place et retour en 8 mois. Évidemment, on n'y est pas encore. Construction d'une station spatiale capable d'accueillir 50 à 100 personnes pour y mener des expériences scientifiques en 1975. Une station spatiale réalisée beaucoup plus modestement à partir de 1998. Construction de bases lunaires en 1975, puis des villes dès 1985, occupées par 25 à 30 personnes, desservies par des LEM, taxis et cargos, bases équipées de robots traitant le sol lunaire, le régolithe, pour en extraire les matériaux, de l'oxygène et de l'hélium-3, pour l'énergie. Le régolithe, d'une épaisseur de plusieurs mètres, est constitué d'un mélange de fragments de roches et de produits de fusion d'impact des météorites sur le manteau de la croûte lunaire. Ces installations étant exploitées conjointement par les USA, l'URSS et d'autres partenaires. Autre projet, l'installation de gigantesques panneaux solaires en orbite basse autour de la Terre, de plusieurs kilomètres carrés, produisant l'équivalent de 5 centrales nucléaires. Pas réalisé. Installation sur la face cachée des d'observatoires astronomiques en basse fréquence et en interférométrie submillimétrique, inopérable depuis la Terre à cause de l'atmosphère. Mais ceci ne pouvait se réaliser qu'à condition que l'exploitation du sol lunaire ne vienne pas polluer un environnement exempt de toute poussière. Ils prévoyaient, les Américains, le coût d'un voyage vers la Lune équivalent à celui d'un vol commercial, ce qui aurait entraîné des milliers de vacanciers sur la Lune. Et au retour d'Apollo 12, en 1972, installation d'une station habitée autour de la Lune en 1975. La création de lignes régulières Terre-Lune pourrait desservir les bases installées à la surface, propulsées par des fusées à moteur nucléaire. Et enfin, des missions habitées vers Mars entre 1985 et 1990. Ça, c'était la vision au début de la conquête spatiale. Voyons un tout petit peu plus tard, en 1980. Côté aviation, les Américains imaginaient une aile volante géante, un espèce de porte-avions atomique, tournant en permanence autour de la Terre, servant de relais à des avions-navettes entre cette base et les aéroports à terre. Dans l'espace, une immense flotte de satellites de communication. Ceci est réalisé. Un télescope en orbite. C'est réalisé. Ça s'appelle Hubble et ça a été lancé en 1990. et l'abandon de fusées classiques au profit de navettes réutilisables dès 1980, réalisées en 1981, puis complètement abandonnées. Pour 1992, les Américains prévoyaient l'installation de la première station spatiale orbitale américaine à 400 km d'altitude en coopération internationale. Ceci a été réalisé à partir de 1998. Les Français misaient sur la desserte de la station avec leur navette Hermès, lancée par une fusée Ariane. Projet Hermès abandonné. Cette station abritant une base de lancement de vaisseaux spatiaux à destination de la Lune et de Mars, après assemblage sur place. Projet pour l'instant abandonné, mais repris dans le projet Deep Space Gateway en 2018. Pour la fin des années 90, les Américains prévoyaient l'installation de colonies humaines au point de Lagrange L5 entre la Terre et la Lune, dans des space labs accueillant 100 personnes, voire une ville de plusieurs milliers d'habitants. Pour 1995, le retour des dirigeables pour le transport de marchandises ou de passagers, jusqu'à 400 personnes. Ceci est en cours de réalisation pour le transport de charges très volumineuses, voyageant difficilement par la route. Pour la fin des années 90, guidage automatique des véhicules. Les premiers essais ont été faits au Japon en 1978, avec des systèmes placés au bord des routes, puis complètement généralisés avec le GPS. Pour début 2000, atelier géant placé en orbite, automatisé ou non, fabriquant des matériaux à très grande résistance. On estimait que 80% des matériaux qui seraient utilisés en l'an 2000 n'existaient pas encore. Seraient créées des usines spéciales, immenses, qui fabriqueraient dans l'espace ces matériaux complètement nouveaux. Mais après quelques essais, la plupart des projets ont été abandonnés. Médecine, usine dans l'espace produisant des médicaments révolutionnaires grâce à l'apesanteur permettant la fabrication de molécules impossibles à faire sur Terre. Urokinase, interférons, des cicatrisants. Mais après quelques essais, là aussi, tous les projets ont été abandonnés. Toujours pour l'an 2000, première colonie humaine implantée sur la Lune. Des centrales solaires en orbite, on y revient, envoyant l'énergie à Terre sous forme de micro-ondes. Un seul satellite pouvant produire jusqu'à 1 gigawatt d'électricité. Ceci n'a jamais été réalisé. Et premières exploitations de minerais extraterrestres. Par contre, ça, c'est bien en cours d'études très très précises. Pour 2020-2025, installation d'une base lunaire à vocation industrielle pour extraire les minéraux rares sur la Terre mais présents sur la Lune. Du titane, du silicium, de l'aluminium. Les bâtiments étaient enterrés sous une couche d'au moins 2 mètres de matériaux de sol lunaire pour protéger les habitants des rayonnements cosmiques. Ces matériaux servant à la construction en orbite de vaisseaux spatiaux partant explorer Mars et le système solaire. Et pour 2020-2025 toujours, installation d'une base semi-permanente sur Mars. Pour 2025-2050, base permanente sur Mars. En plus des minéraux extraits dans le sol, l'atmosphère de Mars contient de l'azote et l'hydrogène, permettant la fabrication d'hydrazine, le carburant des fusées. Pour 2050-2060, premier voyage automatique vers une étoile. Pour 2130-2200, voyages habités vers les étoiles qui prendront plusieurs générations. Pour 2150, le nombre d'humains embarqués dans des colonies spatiales dépasse celui des habitants de la Terre. Et pour 2250, première vague d'émigration humaine vers une étoile accueillante. Ça, nous avons vu les Américains et les Russes ce qu'ils pensaient de leur futur. Mais voyons maintenant ce qu'en pensent les Chinois. En 2018, le gouvernement chinois a consacré 8 milliards de dollars à ses projets spatiaux. Même si on est loin des 20 milliards de dollars de la NASA, les réalisations chinoises sont très sérieuses. Et cela sans compter sur les moyens fournis par les militaires chinois. Le directeur du programme lunaire, Ye Pieyang, s'est exprimé en 2018 avec une métaphore, comparant l'espace à la mer de Chine. L'univers est un océan. La Lune et les îles Diaoyu, Mars, l'île Yuanyang. Si nous n'y allons pas maintenant, alors que nous pensons être capables de le faire, alors cela nous sera reproché par les générations futures. Phrase très forte, alors que la Chine étend sa domination sur ces îles en y construisant des bases militaires. Intervention à laquelle un lecteur de Time a très justement répondu, par le courrier du journal, que nos descendants nous reprocheront sûrement de ne pas avoir préservé notre environnement sur Terre au lieu de dépenser des fortunes dans l'espace. Pour 2020, les Chinois prévoient l'envoi sur Mars d'un atterrisseur doté de 13 instruments, dont 6 rovers explorateurs. La poursuite de l'exploration lunaire avec Chang'e 5, un atterrisseur de 8 tonnes 2 au décollage, lancé par une fusée Long March 5, l'objectif étant le retour d'une capsule chargée d'échantillons lunaires pris dans Oceanus Procellarum. Pour la période 2022-2030, la future station spatiale Tiangong 3 devrait être opérationnelle en 2022. La mise en orbite des premiers éléments a été faite en 2018 avec l'envoi du module Tian'e 1. Cette station spatiale sera peut-être la seule en vol en 2024-2028 après la mise à la retraite de l'ISS. Toujours la Lune pour Chang'e 6 en 2023. La France étant associée à cette mission en 2019. Puis l'arrivée de robots volants avec Chang'e 7 au pôle sud. Enfin, Chang'e 8 testera les moyens de construction d'une base lunaire. Chang'e, c'est la déesse lunaire. La Chine a aussi en développement plusieurs projets d'avions spatiaux, Spaceplane ou Hypersonic, le W14, pour des missions civiles ou militaires. Pour 2030-2040, envoi d'une mission habitée vers la Lune en 2030. Mais cela demandera une fusée Long March 9 de 110 mètres de haut, capable de placer 140 tonnes en orbite basse, soit la même performance que la Saturn V du programme Apollo, contre 23 tonnes en orbite basse pour l'actuelle Long March 5. Et pour 2041-2050, un robot d'exploration sur Mars. Pour 2049 et le centenaire de la création de la République populaire de Chine, il est prévu d'envoyer deux sondes dans des directions opposées de la Terre, à 100 fois la distance Terre-Soleil, soit 15 milliards de kilomètres. Nous avons beaucoup parlé d'espace, mais il y a aussi un futur pour les avions, et pour les avions commerciaux. Au-delà de la propulsion électrique, les constructeurs travaillent sur d'autres formes d'appareils. Airbus reprend des études précédentes sur le concept d'une aile volante, baptisée Maverick. Une maquette de ces démonstrateurs technologiques a été présentée en février 2020 au Salon aéronautique de Singapour. Maintenant, je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Matteo, Head in the Stars, la tête dans les étoiles. Et elles sont très très nombreuses. It's the earth. The earth is my body. My head is in the stars. Who said that? I don't know.
Seulement un peu. On userait de pleines amphores.
Nous n'avons parlé que de réalisation dans l'espace. Mais la conquête spatiale n'a-t-elle pas eu aussi des retombées sur notre vie de tous les jours, pour nous autres terriens ?
Voilà la liste un peu une liste à l'après-vert. La miniaturisation des ordinateurs, réalisée par le Massachusetts Institute of Technology, sous contrat de la NASA, ainsi que les microprocesseurs, développés par Intel, tout ça pour le programme Apollo. Les piles à combustible, utilisant de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'électricité, avec comme déchet de l'eau, piles mises au point pendant le programme Gemini. Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques qui équipent tous nos appareils portatifs, ainsi que les puces électroniques. Les montres à quartz, les perceuses et visseuses sans fil, le joystick, les gants isolants de la chaleur utilisés pour sortir les plats du four, les semelles intérieures amortissantes pour les chaussures, la télécommunication en Wi-Fi, les thermomètres auriculaires à infrarouge, l'assistance ventriculaire, les pompes à insuline, les machines à dialyse, les piles cardiaques, les valves pour administrer des produits comme l'insuline, l'IRM, le téflon qui habille les ustensiles de cuisine, le velcro, les détecteurs de fumée, les verres anti-rayures, la nourriture lyophilisée et la méthodologie développée pour sécuriser la production des aliments, Hazard Analysis Critical Control Point, les filtres à microfibres pour l'eau, les couches culottes de nos bébés et pour les autres, les moon boots, bien utilisés pour marcher au chaud dans la neige, la mousse à mémoire de forme, utilisée pour les matelas, les deltaplanes développés pour le retour des capsules spatiales, solution finalement abandonnée, les capteurs CMOS qui équipent tous les appareils de photo numérique, la souris reliée au clavier d'ordinateur, le millard des couvertures de survie, les tissus ininflammables, les balises de détresse, les lampes à LED, le stylo à billes pressurisé qui permet d'écrire sous l'eau, les robots permettant de faire des échographies à distance. Et puis, il y a tous les satellites, ceux que l'on ne voit pas, mais qui font partie de notre environnement, avec des applications extrêmement variées, dont je vais vous parler tout de suite. La surveillance des territoires ennemis, ce sera la première application concrète de l'utilisation de l'espace, au-delà de la possibilité de lancer des missiles balistiques. C'est Discover 14, en août 1960, qui fut le premier à photographier, pour le compte des USA, le territoire de l'URSS. Après être redescendu dans l'atmosphère, il fut capturé en vol par un avion patrouilleur C-119. La récupération de pellicules éjectées d'un satellite interviendra en janvier 1961 avec le satellite Samos 2. C'est Samos, ça voulait dire Satellite and Missions and Missile Observation. Premier satellite à être placé sur une orbite héliosynchrone. Les USA lanceront 131 satellites Corona entre 1959 et 1972 pour surveiller le territoire soviétique. Et les soviétiques enverront 689 exemplaires du satellite Zénith entre 1961 et 1994. La série Cosmos, quant à elle, compte plusieurs milliers de satellites à vocation militaire, essentiellement. Une des missions de ces engins est de détecter les explosions nucléaires et tous les lancements de fusées. Ceci avait afin d'identifier un éventuel tir de missile hostile, éliminant le risque d'une attaque surprise, permettant aux pays concernés de s'y préparer et surtout de lancer une riposte. Ce sera le rôle des 12 exemplaires des satellites Midas américains entre 60 et 96. A noter qu'en 2018, une erreur d'interprétation a fait planer sur les États-Unis la menace d'arrivée imminente d'un missile nucléaire ennemi. Heureusement, l'anomalie a été identifiée avant que des mesures défensives ne soient lancées. Et pour surveiller ces satellites, les États ont mis en place des réseaux radars qui surveillent tous les satellites, en particulier militaires, afin de savoir si un satellite étranger ne s'approche pas trop près d'un de ses propres satellites. Et aussi pour prévenir ses troupes du passage d'un satellite étranger au-dessus de leur tête. La France, elle, dispose de 2 radars au sol pour surveiller les satellites en orbite basse, les systèmes Grave et Satan, et de télescopes pour l'orbite haute. Pour mesurer le challenge que représente cette surveillance, il faut savoir que si, en 2018, environ 1500 satellites sont en orbite, dans les 10 ans à venir, plus de 3000 satellites de plus de 50 kg et 4000 nanosatellites seront lancés. Cette possibilité de voir à tout moment ce que prépare son voisin, ami ou ennemi, a contribué à ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. Ce n'est pas seulement le nombre d'ogives nucléaires prêtes à lancer qui joue ce rôle, mais aussi le fait qu'il n'y a plus d'effet de surprise possible, chacun pouvant se préparer à réagir à un mouvement hostile de l'autre. La France dispose depuis 1995 de deux satellites Hélios 1, puis en 2004 de deux satellites d'Hélios 2 pour faire des photos au sol. Le 19 décembre 2018 a été lancé par une fusée Soyouz le premier des trois satellites de nouvelle génération CSO-1, capable de faire des images en 2D et 3D, de jour comme de nuit. Sa résolution est de l'ordre de 20 cm et il est beaucoup plus agile que les Hélios, permettant aux opérateurs de changer rapidement de zone observée. Mais cette possibilité de voir ce qui se passe chez soi n'est pas du goût des États. Aussi cherche-t-il à aveugler l'ennemi potentiel en neutralisant leurs satellites, soit de la Terre avec des lasers à haute énergie, des micro-ondes à forte puissance ou des brouilleurs électromagnétiques. Le cyberespace est devenu un autre champ de bataille, plus discret, moins médiatisé, mais tout aussi stratégique que ceux qui se déroulent au sol. Le satellite français Syracuse, qui assure le relais des télécommunications de nos armées, a été approché par un objet spatial non identifié. Et des satellites russes sont approchés de satellites de communication américains Intelsat, qui sont à 36 000 km d'altitude, peut-être pour capturer les images prises par le satellite et les envoyer aux armées russes. La ministre française des armées, Mme Florence Parly, a ainsi déclaré officiellement, lors de visite au CNES à Toulouse en septembre 2018, qu'un satellite russe, Launch Olymp, s'était approché en 2017 à moins de 80 km du satellite franco-italien Athena Fidus, utilisé pour les communications des armées françaises et italiennes. Et la ministre n'a pas caché que les spécialistes pensent bien que ce satellite russe relayait nos communications vers un centre de contrôle russe, déclarant « Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical, c'est un geste d'espionnage. » Ce même satellite russe est passé en 2015 à 2 km d'un satellite américain Intelsat et a été photographié à proximité d'un satellite des communications turques, Turksat 4B, le 10 septembre 2018. Et le lancement, le 25 novembre 2019, de Cosmos 2542, destiné, selon la Russie, à surveiller l'état d'autres satellites russes, n'est pas pour rassurer les militaires occidentaux. D'autres satellites russes ont approché le satellite français de communication Syracuse. La ministre a insisté sur le fait qu'une défense spatiale, c'est nécessaire, c'est essentiel. Car ce ne sont pas seulement les communications qui risquent d'être affectées, mais aussi le guidage des missiles, les prévisions météo des zones de combat, l'imagerie visible, infrarouge et radar, les écoutes, la surveillance des territoires ennemis, bref, tout ce qui fait le monde militaire d'aujourd'hui. Les nouveaux militaires Syracuse, ainsi que les micro-satellites Ceres pour l'écoute électromagnétique, seront lancés d'ici à 2023. Mais la Russie n'est pas la seule à pratiquer ce genre de rendez-vous. Les Américains ont un satellite PAN, top secret, qui pourrait remplir les mêmes fonctions. Et pour faire face à ces menaces nouvelles, qu'elles viennent de Russie, de Chine, voire demain de Corée du Nord ou d'Iran, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le 18 juin 2018 la création d'une sixième branche militaire d'ici à 2019, la Force spatiale indépendante de l'US Air Force, en déclarant « Pour défendre l'Amérique, il ne suffit pas d'avoir une présence américaine dans l'espace. Nous devons avoir une domination américaine dans l'espace. » Mike Spence, le vice-président, a officialisé sa création le 9 août 2018 au Pentagone, le QG des forces armées américaines, avec cette déclaration martiale. Depuis des années, des pays allant de la Russie à la Chine, en passant par l'Iran et la Corée du Nord, ont construit des armes pour bloquer, aveugler ou rendre inopérants nos satellites de navigation et de communication via des attaques électroniques lancées depuis la Terre. Mais récemment, nos adversaires ont travaillé à mettre au point de nouvelles armes de guerre directement dans l'espace. Et le vice-président a demandé au Congrès 8 milliards de dollars sur 5 ans pour cette réalisation. Le Spacecom est devenu le 29 août 2019 le 11e commandement militaire du Pentagone. Sa mission ? dissuader, défendre, offrir une capacité efficace de combat spatial et former des combattants pour la guerre de l'espace. Actuellement, 30 000 employés de l'US Force Space Command et 3 000 personnes du Space Missile System Center travaillent au sein de plusieurs dizaines d'entités séparées. Le budget consacré à ces recherches est équivalent à celui de la NASA. Mais plusieurs hauts gradés américains, dont le secrétaire de la Défense, James Mattis, considèrent ces initiatives comme contre-productives. Les USA travaillent aussi avec leurs alliés dans ce domaine où plusieurs nations ont des projets identiques. La France a un projet de création d'une bulle de protection autour de ses satellites sensibles, voire des systèmes permettant de saisir l'important et de le mettre sur une orbite poubelle. Un rapport rédigé par deux députés début 2019 recommande une série d'actions à organiser autour de quatre axes. Renforcement des moyens actuels de surveillance, capacité de neutraliser une menace dans l'espace, capacité de poursuivre les missions en cas de neutralisation de nos satellites et révision de l'organisation de la défense spatiale par la création en France d'une force spatiale, placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Ce commandement de l'espace a été confirmé par la ministre le 13 juillet 2019 et créé en septembre 2019. En parallèle à la déclaration américaine, les Chinois ont annoncé la mise au point des missiles hypersoniques Starlink Sky 2 pour 2030. Volant à plus de 7000 km/h. Et les Russes ont indiqué que ces forces armées recevraient en 2020 un missile balistique volant à Mach 20. Les Américains n'étant pas en reste, plusieurs projets gérés par les Phantom Works portent sur des missiles capables de franchir 17000 km en 2 heures, ou atteignant n'importe quelle cible en 1 heure, largués par le drone ultra-secret X-37B, ne laissant pas aux forces d'interception le temps de réagir. Le budget alloué à ces recherches s'élèverait à 2 milliards de dollars. Un planeur hypersonique, l'Advanced Hypersonic Weapon, lancé par un missile balistique et volant à 40 km d'altitude à Mach 20, pourrait atteindre une cible à 6000 km. Les Russes, de leur côté, ont le projet YU-71, qui volerait à Mach 15 sur 6000 km. De quoi largement atteindre en très très peu de temps les côtes américaines. Début 2019, la ministre de la Défense française a annoncé la signature d'un contrat à Ariane Group pour le développement des planeurs hypersoniques, le VMAX, véhicule manœuvrant expérimental, volant à 6000 km/h. Cet engin sera lancé par un missile balistique qui, volant moins haut qu'un missile intercontinental, est plus difficilement repérable par les défenses ennemies. Si l'on revient sur le traité de l'espace qui a été signé le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le 10 octobre 1967, l'Outer Space Treaty, qui interdit toujours l'installation sur orbite de bombes nucléaires ou d'armes de destruction massive, ce traité n'interdit pas aux nations de se doter de moyens pour détruire ou bloquer les satellites des autres nations en cas de conflit majeur. Russes et Chinois ont déjà testé des armes anti-satellites, créant au passage un nombre considérable de débris spatiaux. Et l'Inde a procédé à un tir de missile anti-satellite sur un de ses satellites en orbite basse, à moins de 300 km d'altitude, en mars 2019, générant ainsi plus de 6500 débris de plus d'un demi-centimètre. Allez, pour détendre un peu l'atmosphère, je vous propose d'écouter la valse du danseur de lune, chantée par Amédée Les Crayons. Thank you.
s'est pris les pieds dans la brume, n'a pas vu l'aurore arriver, et personne n'a remarqué. Il s'est accroché aux jupons du ciel, en a déchiré la dentelle. Il est tombé sur un drap dans sa chute le rideau de brume. Il n'y a plus de danseur de lune. Il est mort dans un linceul de brume. Le ciel est presque nu et personne n'a rien vu. Toutes les étoiles avaient prédit que cet amoureux transi, un certain petit jour, en tomberait d'amour. Mais lui jouait les funambules avec les rayons de sa lune. Il savait qu'un jour le soleil viendrait le tué en duel. Il n'y a plus de danseur de lune. Il est mort dans un linceul de brume. Le ciel est presque nu et vous n'avez rien vu. D'après vous, c'est un fait divers qui ne mérite pas de prière. Vous vous trompez. Vous vous trompez.
Nous reprenons le fil des réalisations spatiales qui ont un impact sur notre vie de terrien. Télécommunications et télévision spatiale. La première tentative d'utiliser l'espace pour transmettre des communications est assez originale. En 1954, la marine américaine communique entre Washington et Hawaï en utilisant la capacité de la Lune pour envoyer les ondes radio. Testée aux USA dès 1960 par les ballons réflecteurs Echo de la NASA, la télécommunication via l'espace sera reprise par des satellites. D'abord SCORE en 1958, Courrier en 1960, Telstar 1 et 2, le 10 juillet 1962 et mai 1963, et enfin Relais 1 et 2 en décembre 1962 et janvier 1964. Le premier satellite de télécommunication sera SYNCOM 1, lancé par la NASA en 1963, reliant quelques antennes au sol, gérant 600 communications simultanément. Mais le service ne sera vraiment opérationnel qu'avec SYNCOM 3, lancé le 19 août 1964, puis les Intelsat en 1965 et les Defense Satellite Communication, 48 exemplaires lancés entre 1966 et 2003. Côté soviétique, ce seront les satellites Molnia à partir de 1964 en orbite basse, puis Molnia S en orbite géostationnaire en 1974, 178 exemplaires au total, la série des Stella, 609 exemplaires, suivie par les Raduga et Gorizon, et enfin Express. L'Europe n'est pas restée absente de ce marché avec Télécom 1A à 1C de 84 à 88, puis Télécom 2 91-92, puis DFS Copernicus. En 2017, le chiffre d'affaires mondial des télécommunications spatiales par des sociétés privées a été de 280 milliards de dollars, avec 330 satellites civils en service. 55 opérateurs se partagent ce marché. Les satellites de l'organisme Eutelsat, 11,5 milliards de dollars, sont capables de communiquer avec des millions d'antennes. le futur satellite américain Viasat 2 offrira 300 gigabits par seconde en bande K. C'est la mise en service de téléphones portables qui a fait exploser ce marché. Les communications Internet passent par satellite, ainsi que les retraits d'argent dans les distributeurs automatiques. La télévision par satellite, dont tout le monde bénéficie. Le 6 avril 1965 est lancé Intelsat 1, surnommé Early Bird, l'oiseau matinal. Premier satellite commercial de télédiffusion. En 1973, un organisme international, Intelsat, fédère 121 pays autour de cette activité. Aujourd'hui, 40 000 chaînes de télévision sont diffusées par satellite. Voyons maintenant quelque chose que tout le monde connaît parfaitement, le GPS, le Global Positioning System. Le premier satellite de navigation, Transit 1B, est lancé le 13 avril 1960 pour suivre les déplacements des sous-marins nucléaires équipés de missiles Polaris. Conçu au départ par les militaires US pour guider avions et missiles, lancé à partir de 1978, il fut ensuite largement utilisé par les civils pour permettre la localisation de tout type de véhicules ou de personnes, autorisant le guidage GPS qui équipe tous les avions, les navires de guerre ou commerciaux, et aujourd'hui quasiment toutes les voitures. Le système complet de 24 satellites a été finalisé en 1994. Les récepteurs embarqués sur ces véhicules reçoivent en permanence les signaux de 4 satellites, positionnés à 20 200 km d'altitude, et l'ordinateur embarqué calcule sa position à partir de celle de ces satellites. A noter que les récepteurs des systèmes GPS tiennent compte des différences de temps induites par la relativité d'Einstein sur des échanges entre la Terre et des satellites volant à 20 200 km d'altitude et à 14 000 km/h, il y a un décalage de 39 microsecondes par jour entre les horloges à terre et celles embarquées, ce qui conduirait, si cela n'était pas corrigé, à des écarts de 11 km par jour. L'Europe a lancé son système de GPS, Galileo, d'une précision bien supérieure au GPS américain, au russe GLONASS ou au chinois Baidu. Les lancements ont commencé en 1999 et le système est opérationnel depuis décembre 2018, lorsque 20 satellites ont été déclarés opérationnels. En mai 2019, 26 des 30 satellites prévus étaient à poste. À mi-2019, 700 millions d'appareils l'utilisent. Le coût de cette opération sur la période 2018-2020 est de 10 milliards d'euros, alloués par la Commission européenne. Les travaux de la deuxième génération sont aussi en cours en 2020. Mais le système est tombé en panne le 11 juillet 2019 à cause d'incidents entre deux segments de transmission au sol. Pendant une semaine, il n'y a pas eu de possibilité d'utilisation Galileo. Et en raison du Brexit, les Anglais seront privés des accès à ce système. Aussi ont-ils lancé en septembre 2018 un programme parallèle, spécifique, doté de 100 millions d'euros. Il y a aussi un autre GPS qui nous concerne un peu moins, c'est le GPS stellaire. Sur le principe du GPS, la NASA a mis au point un GPS stellaire qui permet à la Station Spatiale Internationale de se positionner dans l'espace, et ce, en allant se caler sur des pulsars qui sont répartis dans tout le ciel avec des télescopes à rayons X. Il y en a 52 dans l'ISS. Cela va permettre de donner avec une précision de 16 km la position de l'ISS qui évolue à 400 km d'altitude. Cela peut paraître beaucoup parce que l'ISS est proche de la Terre et bénéficie de satellites GPS en orbite. Mais ce système peut être employé pour situer les sondes spatiales dans l'espace qui naviguent à des millions de kilomètres de la Terre. Autre domaine qui doit énormément aux satellites, la météorologie. Grâce aux satellites qui mesurent en permanence température, vitesse et direction des vents, la nébulosité, soit directement en recueillant les données envoyées par les multiples sondes et bouées météo disséminées à la surface du globe et dans les océans, on peut prévoir le temps quasiment une semaine à l'avance et donner prévisions de plus en plus fiables pour les deux ou trois jours suivants. La surface du globe a été découpée en carrés de 2,5 km de côté, que l'on appelle le maillage. Et les modèles mathématiques, basés sur la méthode des éléments finis, permettent de simuler les évolutions météorologiques avec une très grande précision. Dès avril 1960, un satellite américain, Tyros 1, balayait à la quasi-totalité de la Terre toutes les 12 heures, sur une orbite basse. Il sera en service pendant seulement 2 mois. Les Russes suivent en 1966 avec Cosmos 122. En 1974, un autre satellite américain, SMS, géostationnaire, surveillait en permanence une même portion du globe. Les Européens lancent Meteosat en 1977 et cinq autres jusqu'en 2015. Meteosat 7, en fin de vie opérationnelle, a été placé en 2017 sur une orbite cimetière à 36 200 km d'altitude pour ne pas gêner les autres satellites géostationnaires qui croisent à 36 000 km d'altitude. Les satellites METHOP A et B, lancés en 2006 et 2012, ont été rejoints en 2018 par METHOP C en novembre 2018. Le premier exemplaire de la nouvelle génération, MTG-1, satellite 3 tonnes 8, sera placé à partir de 2021 par une Ariane 5 avec une durée de vie estimée de 11 ans. Surveillance des ouragans. Grâce à des dizaines de satellites spécialisés, on peut repérer une tempête tropicale en train de se former par la mesure de l'élévation de la température de l'eau. Exemple de l'ouragan Irma en 2017, l'eau est montée à 31 degrés au lieu de 26 degrés. Et le suivi permet de prédire la trajectoire des ouragans, permettant l'alerte des populations avec plusieurs heures d'avance. La génération actuelle, les GOES de Lockheed Martin, ont une résolution 4 fois supérieure à celle de ses prédécesseurs. Un organisme international, le Programme mondial du climat, fédère toutes les recherches sur ce sujet. Le Groupement international d'experts pour le climat, le GIEC, observe 50 variables climatiques et 26 d'entre elles sont fournies par les satellites. Et en juin 2018 a été créé l'Observatoire spatial du climat, le SCO, Space Climate Observatory, proposé par le CNES en 2017 en coopération avec la Chine et le Maroc. Autre découverte majeure réalisée par la NASA, la révélation du trou dans la couche d'ozone, cette enveloppe qui protège la Terre des UV nocifs. Cette menace a été prise très au sérieux et les ingénieurs ont élaboré de nouvelles molécules qui ont remplacé celles responsables de la dégradation de la couche d'ozone, dont le rétablissement est actuellement observé par ces mêmes satellites. Le satellite Sentinel-5P photographie la pollution de l'air liée à la combustion des énergies fossiles, comme les gaz d'échappement des véhicules. Et Copernicus cartographie les émissions de gaz et d'aérosols. En 2019, l'ESA lancera un satellite, Merlin, pour la surveillance des émissions de méthane, un gaz 28 fois plus dangereux que le CO2 pour la couche d'ozone. Autre domaine, la mesure des vents. Lancé en août 2018, le satellite Aeolus, placé sur une orbite basse à 320 km d'altitude, mesure le profil des vents avec un laser en lumière ultraviolette. Son but est d'améliorer les prévisions météorologiques et d'analyser les phénomènes majeurs. La société Spire gère 80 mini-satellites qui fournissent entre autres des données météo. Un lanceur Vega d'Ariane Espace lancera en 2022 un satellite dédié à la surveillance des forêts, biomasse, qui mesurera quelle quantité de carbone est stockée par les forêts tropicales et tempérées. Action militaire côté climat. Tant du côté américain que soviétique, les militaires ont, pendant la guerre froide, imaginé de pouvoir développer des satellites capables de modifier le climat au-dessus des territoires de leurs ennemis. Ce projet d'armes climatiques ayant été officiellement reconnu par le gouvernement américain. Avec le réchauffement des relations entre les deux pays, après la chute du mur de Berlin en novembre 1989, la Russie proposa d'utiliser la technologie développée pour ces changements de climat pour reboucher le trou de la couche d'ozone. Mais ceci sans réalisation concrète. Encore un autre domaine, l'océanographie. La surveillance des océans est devenue un phénomène absolument majeur, car l'élévation du niveau des eaux est la conséquence d'un réchauffement climatique que personne ne peut plus nier. Aussi, à l'aide des bouées citées précédemment, on peut à tout moment connaître l'évolution du niveau des mers et faire des prévisions sur ce que sera ce niveau dans un futur proche. Cette mesure depuis l'espace s'est faite à partir de 1978 avec le satellite américain SeaSat, puis le franco-américain Topex Poséidon en 1992, qui, orbitant à 1300 km d'altitude, mesure au centimètre près la surface de l'océan. Ceci a permis de voir que le niveau des océans montait de 3,4 mm par an, et ceci depuis 25 ans. Le phénomène El Niño, découvert par les satellites, anomalie climatique située dans le Pacifique, au large des côtes chiliennes, est surveillée de près par les responsables du monde entier. Car l'augmentation de température des eaux du Pacifique et l'élévation du niveau des eaux associées, se déplaçant d'ouest en est, a des répercussions sur le climat de la planète, ce qui entraîne des conséquences importantes en termes de précipitations, de culture et de pêche. Son corollaire, la Nina, est une phase froide, avec elle aussi des conséquences sur la vie des habitants de notre planète. Les satellites franco-américains de la série OSTM Jason, Ocean Surface Topography Mission, observent la variabilité océanique depuis 2001. Jason 2, lancé en 2008, a été stoppé en octobre 2019, et Jason 3, lancé en 2016, poursuit sa mission. Le 29 octobre 2018, un satellite franco-chinois a été placé sur orbite héliosynchrone, avec mission de mesurer la vitesse des vents marins, ainsi que la hauteur et la longueur d'onde des vagues. Encore un domaine, la surveillance des écosystèmes. Les satellites, sur leurs orbites géostationnaires, peuvent voir tout ce qui se passe à Terre. Le premier satellite dédié à l'observation de la Terre, l'américain Landsat, offrait une résolution de 80 mètres en couleur et 40 mètres en noir et blanc. Le programme SPOT, satellite probatoire d'observation de la Terre, mis en œuvre par la France depuis 1986, porte un regard attentif sur notre planète. Sa résolution était de 10 mètres par pixel. Il a été suivi par SPOT 2 à 4, puis SPOT 5 en 2002, résolution de 2,50 m par pixel, SPOT 6 et enfin SPOT 7, lancé en 2014, avec une résolution de 1,50 m par pixel. La génération actuelle, nommée Pléiade, et offre une résolution de 50 cm par pixel. Nouvelle génération de satellites à très haute résolution, 30 cm par pixel, s'appelle Pléiade Neo et sera placée sur orbite à l'horizon de 2020. Et la future génération des Pléiades, en 2020-2030, aura une résolution de 25 cm par pixel. Pour les 20 ans de cette surveillance par satellite, la NASA a réalisé une vidéo de 2 minutes 30 sur laquelle on peut voir les changements à la surface des continents et des océans. À voir sur https://nasa.gov/feature/godard/2017/the-changing-color-of-our-living-planet. Crucial en cas de marée noire pour acheminer les secours en prévoyant le déplacement des nappes de pollution, les satellites offrent aux responsables le moyen de mener rapidement les actions nécessaires. Le déplacement des bandes sargasses, ces algues qui viennent s'échouer régulièrement sur les côtes des Caraïbes, est surveillé par le CNES. Autre utilisation du satellite, la surveillance des immenses masses glaciaires qui se détachent de la banquise, dérivant sur les océans, présentant un réel danger pour la navigation. Rappelez-vous le Titanic. Le 12 juillet 2017, c'est un iceberg de 5800 km², épais de 350 mètres et pesant 1000 milliards de tonnes qui s'est détaché de l'Antarctique. Le 24 septembre 2017, un morceau de banquise de 250 km², représentant 2,5 fois la surface de Paris, 4 fois celle de Manhattan, s'est détaché dans l'ouest de l'Antarctique. En 8 ans, le glacier concerné a reculé de 40 km, a perdu 200 mètres d'épaisseur, entraînant une élévation d'un millimètre du niveau des mers. L'Arctique est aussi touché. La plus ancienne mer de glace de ce continent blanc se fissure. Mais sans se détacher de la banquise, les glaciers fondent. La NASA a ainsi mesuré que le glacier Totten, le plus grand de l'Antarctique, fond à un rythme accéléré. L'Antarctique perd 125 gigatonnes de glace par an depuis 15 ans. La disparition de tous les glaciers de l'Antarctique entraîne une hausse des océans de 3 mètres, provoquant des inondations de nombreuses régions côtières très peuplées, ainsi que la pollution par le sel des nappes d'eau douce. Elle menacerait aussi la faune et la flore des banquises qui vivent dans un environnement scellé, qui serait profondément perturbé par l'arrivée massive d'eau douce. L'Antarctique contenant 62% des réserves d'eau douce de la Terre. Un nouveau domaine, la photographie spatiale. Aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir une image de son quartier prise depuis l'espace grâce au réseau de 140 distributeurs dans le monde, dont la division intelligence d'Airbus Defence and Space. Cette entité a été créée en 2015 par la fusion de Spot Image, qui a été créée elle par le CNES, l'IGN, Alcatel et Matra, avec Infotera, une filiale d'Airbus. Aux États-Unis, c'est la société Digital Globe qui commercialise les photos, avec le gouvernement américain comme principal client. Ces images alimentent des centaines d'applications civiles, cartographie, agriculture, aménagement du territoire, sécurité civile. Par exemple, en 1973, le satellite ERTS, Earth Resource Technology Satellite, a identifié tous les champs de coton de Californie parasités par un champignon, et leur traitement rapide a permis de limiter la propagation de la maladie. Et elle a aussi repéré les usines et les navires polluants. Depuis 2014, la société canadienne Urtecast commercialise des images prises depuis deux caméras qu'elle a fait installer sur la station spatiale d'ISS. Autre société, Black Sky, a le projet de mettre sur orbite une constellation de 60 microsatellites Black Sky Global X, équipés de caméras et une résolution d'un mètre, prenant une image par seconde et couvrant une zone abritant 95% de la population mondiale. Images vendues par abonnement sur Internet, disponibles 90 minutes après les prises de vue, pour $90, une image couvrant 4 km sur 6. Une usine dédiée à la production de cette constellation et des suivantes, Leostella, a été inaugurée en février 2019 à la proximité de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, à côté des usines Boeing, ou quand la fiction Big Brother est rattrapée par la réalité. D'autres sociétés sont sur ce marché. Planet, USA, Orbimage, USA, WorldView Imaging, USA, Digital Globe, USA, ImageSat International, Israël, iGeos, Italie, Skybox Imaging. Le marché de l'observation de la Terre représente 2 milliards de dollars par an. Enfin, un autre domaine un peu plus proche de nous, les avions cargo, qui est aussi une retombée du programme spatial. Le monde aéronautique connaît bien les Belugas, ces Airbus A300 modifiés qui transportent les pièces d'Airbus entre les différentes usines de la société et celles de ses fournisseurs. Mais c'est bien l'industrie spatiale qui a créé ce type d'activité. Pour transporter les éléments des fusées entre Seattle, la Nouvelle-Orléans, Los Angeles et Cap Kennedy, Boeing adapte en 1965 un quadrimoteur Boeing 377 Star Cruiser Guppy et crée le Super Guppy qui sera utilisé au début de l'aventure Airbus. Aujourd'hui, le Beluga XL vient de prendre la relève. Construit à partir d'A330-200 fret, le premier des 5 exemplaires prévus a fait son premier vol le 19 juillet 2018, peint avec une livrée évoquant une baleine. Il transporte depuis fin 2019 à chaque voyage 51 tonnes de fret, soit un fuselage ou deux ailes d'A350, là où le Beluga actuel ne prend que 47 tonnes ou une seule aile d'A350. La flotte de 5 Beluga XL permettra à Airbus d'accroître de 30% ses capacités de transport aérien. Il est le plus grand et plus long que son équivalent chez Boeing, le Boeing 787 Dreamlifter. Dans la 18e émission, le mercredi 15 avril, je vous parlerai d'autres utilisations de satellites, d'exploitation des ressources extraterrestres, de techniques liées aux satellites, des métiers de l'aéronautique et de l'espace, et comment, aujourd'hui, on se nourrit dans l'espace. Merci pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous dans un mois, à la même heure. Si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission et les précédentes. Merci à Chloé pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.